Midi, cette fois on va s'intéresser à la fantaisie avec une table ronde qui s'appelle Retour aux origines de la fantaisie et avec un plateau composé à la fois d'illustrateurs et d'auteurs, d'auteuses, d'auteureux, enfin des filles quoi, qui écrivent de la fantaisie. Alors, parmi nous, on va commencer par ces dames parce que nous avons un fond de galanterie quand même, Sarah Dock. Qui donc a écrit plusieurs nouvelles, notamment dans Fiction et également dans l'anthologie des Utopiales. Dépêchez-vous d'acheter l'anthologie des Utopiales, il n'y en a quasiment plus. Nous avons également Justine Miogret qui vient de remporter le prix européen des Utopiales des Pays de la Loire et de l'Univers hier pour Mordre le bouclier. J'ai plus le titre exact. Exactement. Bon, voilà. Et puis nous, les garçons sur cette table ronde sont illustrateurs, dessinateurs. Nous avons Eliane Blackmore, Jean-Sébastien Rochebach et Guardino. Voilà, Juan Guardino. L'idée en fait de cette table ronde, c'est de se dire que si la fantaisie, on a tous une espèce de pot commun, hein, parce que évidemment, si je vous dis un chevalier, un dragon, une princesse, on sait à peu près de quoi on parle. On a des auteurs et des illustrateurs qui développent et prennent en compte cette fantaisie et la modèle pour eux et par eux. Parce que la fantaisie, c'est une matière vivante. Et donc, on va discuter un petit peu avec chacun d'entre eux de ces rapports et de cette réinvention permanente qu'ils font de la fantaisie. Justine, alors, toi, tes influences en fantaisie, quelles sont-elles ?
Les mythes très anciens. Surtout.
Très ancienne.
Voilà. Et Tolkien, parce que Tolkien, c'est bien, c'est la vie.
Ça veut dire que tu as rencontré la fantaisie quand et
En fait, par les premiers contes de fées, je pense. Il y avait une sorte d'émerveillement et d'exotisme qui me parlait déjà.
D'accord. Et après, Tolkien et d'autres auteurs.
Ouais.
Tu étais une grosse lectrice de fantasy, une grosse lectrice de contes.
De lectrice, pas vraiment. C'était surtout des textes anciens, des livres de symbolisme, des choses comme ça, des choses qui parlent des archétypes. Mais j'ai surtout été une grosse lectrice de terreur.
De terreur.
Ouais.
D'accord. Très bien. Sarah, un petit peu la même question. Ta rencontre avec la fantasy, les auteurs que tu aimes, comment ça s'est passé ?
Alors, comme Justine, à l'origine, il y a les mythes, que ce soit Gilgamesh, les mythes nordiques, les mythes celtiques, les mythes bibliques, enfin, les mythes du monde entier. La fantaisie proprement dite, j'y suis venue extrêmement tard, à dépasser la vingtaine. J'ai lu Tolkien à 23 ans, j'ai trouvé ça profondément chiant. C'est pas du tout mon genre de fantasy. Je préfère, au contraire, des auteurs comme Guy Gabriel Kay qui font une revisitation de l'histoire, qui jouent avec les mythes et avec l'histoire que de la grosse fantasy avec des monstres et des êtres bizarres. Mais c'est vrai que c'est venu beaucoup plus tardivement. Je suis beaucoup plus sensible justement aussi à la symbolique, à des mythes plus anciens comme les mythes féeriques, comme des choses comme ça qu'à des auteurs extrêmement classiques.
Alors, est-ce que Tolkien est chiant pour toi ?
Le début de Tolkien est chiant. Important, mais chiant. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Tolkien.
Non, mais pour toi, quels sont les auteurs ? Et toi qui es un homme d'image,
ouais.
Est-ce qu'il y a des illustrateurs ou des illustrations, ou tout du moins des univers qui ont compté ?
Moi, en fait, c'est pas que la littérature, c'est vraiment, c'est tout. C'est le jeu vidéo, c'est le cinéma. Depuis que je suis ado, ça peut être la fantasy, mais c'est aussi le fantastique. Les auteurs, ceux qui m'ont vraiment donné envie de faire de l'illustration, bah, ils sont pas là, c'est Jean-Baptiste Monge et Pascal Moguerou. On a fait partie de la même maison. Et après, c'est un ensemble de tout. Je suis pas un féru littérature fantastique. J'en lis, j'ai lu Martine, j'ai lu
Martine, le trône de fer. Hein,
ouais, oui,
Martine,
oui. Hein. Si, mais j'ai lu Martine aussi. Et voilà, c'est. Merci, ça suffit.
Alors, Martine et le dragon, a-t-il été une des influences de Jean-Sébastien Rochebach ?
À fond, ouais,
à fond, ouais, évidemment. Ouais.
Non, c'est ultra fantasy, Martine. Moi, je suis venu à la fantasy comme beaucoup de gamins, quand j'étais en sixième, et j'ai découvert les livres dont vous êtes le héros, en fait. C'est le tout début pour moi. J'étais pas lecteur du tout, je lisais que de la bande dessinée, de préférence américaine. Et donc, j'y suis arrivé par ça, j'ai commencé par ça, ensuite Donjons et Dragons, le jeu de rôle. Et c'est en voulant jouer de plus en plus sérieusement au jeu de rôle que je me suis cultivé et que j'ai acheté des livres et que j'ai commencé à lire des auteurs, en fait, de fantasy.
C'est intéressant ce que tu dis, on ne se connaît pas, je vais te tutoyer.
Ça me va très bien.
Non, mais tu parles de BD américaine, ouais. Avec peut-être un graphisme un petit peu différent ou des auteurs. Ouais. Quelles étaient un peu les séries qui, toi, t'ont marqué?
Moi, c'était Marvel hein, quand j'étais gamin. Il y avait mes grands-parents tentaient de m'acheter. Ça n'a rien à voir, hein, mais ça n'a rien à voir avec la choucroute.
Ouais,
mais,
c'est pas très fantasy, Marvel.
Non, moi, ils tentaient de m'abonner au journal de Tintin. J'en avais rien à battre, quoi. C'est clair et net. Moi, pour moi, c'était les X-Men et ce genre de choses-là. C'est effectivement un graphisme différent et aussi des préoccupations différentes. Rien à voir.
On parlera peut-être tout à l'heure de l'aspect graphique des choses. Peut-être en termes de dynamisme, si ça a eu des influences ou des choses comme ça. Même question pour vous, Juan. Quelles ont été vos influences?
Moi, en plus de Martine, il y a Caroline. Par Pierre Probst, formidable. Excellent dessinateur animalier. Donc, sérieusement, il y a beaucoup d'influences. Mais il y a aussi, chez moi, inévitablement, un avant et un après, Star Wars. Moi, j'ai un pur produit Lucasfilm. Pendant des années, je jurais que par ça, et avec mon frère, on s'amusait à dessiner autour du sujet 24 heures sur 24. Et effectivement, après, il y a beaucoup d'autres choses qui sont intervenues dans mon imaginaire et dans la SF, qui m'a obsédé longtemps au point que toutes mes BD de jeunesse sont de SF, et après, j'ai totalement abandonné, je suis revenu sur Voyageur presque accidentellement. Mais il y a aussi les mythologies, notamment les mythologies classiques, la confluence de la mythologie classique avec la celtique, notamment sur le personnage du satyre ou du faune dans l'une et l'autre, l'une qui vient du dieu Pan, l'autre du dieu Cernunnos. Je m'acharnais à une époque aussi à dessiner beaucoup des satyres et des faunes, c'était un thème qui m'intéressait, tout comme le thème du centaure.
À quel âge tu dessinais des satyres, juste pour
vers savoir. Marron et toi. Et oui, mais c'était justement à l'époque des Beaux-Arts. Les autres faisaient des peintures abstraites. Moi, je dessinais sans tort, imagine. Mais toujours, ce côté hybride animal et personnage qui est présent dans les mythologies anciennes et que, après, du coup, un peu indirectement aussi, je reprends dans Black Sabbath, que vous connaissez peut-être. Et donc, voilà, tout ça fait partie. Et dans mes lectures, en plus de Tolkien, que je trouve pas chiant du tout, j'aime beaucoup. Il y avait aussi Ursula K. Le Guin avec sa trilogie qui m'a beaucoup impressionné. Je sais pas si je l'ai lu en espagnol, je ne sais pas si c'est un magicien de terre-mer ou un truc comme ça. Voilà, je me souviens du nom de la série en espagnol qui avait aussi des éléments, même dans la construction narrative, des idées qui partaient de la magie consistait à appeler les choses par leur vrai nom, leur nom ancestral. C'était des trouvailles formidables. Enfin. Plus, c'est fini.
Puisqu'on est avec l'illustrateur, comment naît un petit peu une image de fantasy, et puis entre les représentations un peu classiques, parce qu'il y a beaucoup hein, d'images de fantasy qui nous entourent, comment est-ce que vous faites votre propre sauce? Est-ce que quand on vous dit dessiner un dragon, à quoi vous pensez? Comment vous vous documentez? Comment ça se passe?
Ça, c'est une question compliquée, en fait. Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de la personne avec qui on parle, simplement. Pour moi, de but en blanc, c'est la collection dans laquelle on s'insère, les gens avec qui on travaille. Il y a aussi ce que nous, on a envie de montrer de nous-mêmes, qui est une espèce de mélange des deux. Le dragon, c'est emblématique parce que. Aujourd'hui, je trouve personnellement que c'est très difficile de dessiner un dragon. Je trouve ça très difficile parce qu'il y a énormément de très grands peintres et de très grands dessinateurs qui ont fait des dragons magnifiques. Et passer derrière eux, en donnant quelque chose en plus, ça fait forcément passer par des chemins de traverse. Moi, j'utilise beaucoup l'abstraction dans mon travail. Et j'ai fait notamment une illustration de dragon dans un recueil sur les dragons, justement, où il y avait des gars comme Todd Lockwood, comme Michael Whelan et j'en passe. Ils ont des monstres absolus en matière de dragons. Et qu'est-ce que je pouvais faire? Voilà, moi, qu'est-ce que je pouvais apporter à ce moment-là? Et sur le moment, j'ai trouvé qu'une seule solution, c'est de partir vraiment dans quelque chose de très, très abstrait. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Mais c'est pas obligatoire. On peut très bien me demander de rester dans quelque chose de très, très classique. Et on est, mon travail, c'est illustrateur. Donc, on illustre un propos. Il y a une partie un peu mercenaire dans l'idée de l'illustrateur, qui est qu'il faut répondre à des codes qui sont des codes qui sont dans le cerveau des gens, en fait. Hein. On peut pas tout faire.
Alors, sur cette question...
Moi, j'ai de la chance, c'est qu'en fait, personne ne me les a demandés. C'est les miens, donc je suis pas emmerdé, quoi. Non, en fait, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse dans cette bestiole, parce que j'en ai fait tellement qu'au bout d'un moment, c'est un peu ma bestiole, c'est la puissance qu'elle génère, c'est la forme qu'elle a, et je regarde pas, en fait, celle des autres. Enfin, c'est culotté à dire, mais c'est vrai, en fait, je l'ai fait comme je le sens, et vu qu'en fait, on écrit un carnet... Enfin, en l'occurrence, pour les dragons oubliés, on a fait un carnet de voyage... Vu que je marche dans les pas de l'auteur, c'est pratique parce que j'ai pas de contraintes, c'est moi qui me les fixe, et si malgré tout si j'ai un problème, bah c'est bien, je peux en faire un autre, en fait, je suis pas bloqué par ça, en fait. Et contrairement à Jean-Sébastien, c'est vrai que j'ai pas une culture, en fait, de la fantasy ou même des auteurs américains et tout. Le livre de Magen, je l'ai découvert parce que j'y ai participé aussi, j'ai découvert les auteurs dedans que je connaissais pas, donc c'était agréable, en fait, de voir d'autres versions. Mais peut-être parce que le fait que je viens du graphisme et d'un autre média, j'ai pas vu plein d'images, en fait, on m'a pas donné plein d'images, donc je suis parti libre dedans et apparemment les gens ont accroché, donc j'ai continué, quoi. Voilà.
Mais est-ce que tu arrives à déterminer un petit peu tes influences? Parce que quand on voit tes dragons, on sait que c'est un dragon, quoi,
oui,
globalement.
Il y a deux cornes, des ailes, mais généralement, si on tourne autour, il y en a qui se cassent la gueule, hein, je le dis sincèrement, je le sais. Je ne suis pas intéressé par l'anatomie de la bestiole, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle dégage, c'est la puissance de ses ailes, la force qu'elle émane, enfin, qui émane d'elle, mais le dessin respectueux, il y en a qui le font vachement mieux que moi, et je préfère pas m'y risquer, et puis ça ne m'intéresse pas, en fait. C'est vrai que sur le voyage, on a vu que... En fait, ils sont bizarres, les dragons, parce qu'ils m'ont collé, et c'est pas ce que j'avais prévu au départ. Enfin, ce que j'avais prévu, c'est ce que j'ai fait par la suite, mais le choix éditorial était d'en faire plusieurs, donc j'ai suivi des trajectoires géographiques qui me plaisaient, d'autres, certaines où j'ai voyagé, d'autres où j'ai pas voyagé, et j'ai essayé de m'inspirer de ce que je disais, de ce que je voyais. Pas mal de gravures, quand même, malgré tout, j'ai quand même regardé des choses comme ça, mais pas d'images contemporaines, en fait. J'ai essayé, tout de même. Enfin, j'en ai vu sur Internet, bien évidemment, comme tout le monde, mais j'ai essayé de pas aller voir, là.
Ouais, la question, c'est le poids de tout ce qui a été fait et de cette imagerie parfois un petit peu commune qu'on a tous en tête. Juan, c'est pareil. Sur ce poids, alors vous dessinez peu de dragons, quelques-uns.
Non, justement, pour le livre de Magin, j'ai été sollicité. Ça m'a fait tellement flipper que je me suis abrité derrière une excuse pour pas avoir à me retrouver en concurrence avec tellement de monuments vivants de l'illustration et qui allait, et que je le savais, je le voyais venir, même pour le deuxième tome par rapport au premier, ça voyait, ça partait dans un spectre de possibilités graphiques, et voilà, il est exploité sous toutes les formes, sous la forme du dinosaure retravaillé, que de toute façon l'image des dinosaures avec tous les films des dinosaures, ça nous a
marqué,
du coup, changé un peu l'image du grand reptile, mais je trouve beaucoup plus intéressant et graphiquement ce dont vous parlez, quoi, en faire maintenant que toutes les possibilités zoomorphiques, pour ainsi dire, sont exploitées, limite aller vers ce côté volcan ambulant, quoi. Mmh. Vraiment une pure force de la nature, hein, voilà,
c'est ce qu'il y a de plus intéressant,
un jet de lave, vraiment un titan en puissance, voilà, qui après la forme, à la limite, presque, c'est pas qu'on s'en fiche, mais ça reste, on est presque plus attaché à l'anatomie reptilienne ou autre. Tout ça, c'est vachement intéressant. D'ailleurs, dans les livres de Magin, c'est ça, le plaisir de voir comment Paul Bonheur ou vous développez des trucs totalement différent, c'est jouissif.
Est-ce que c'est difficile de vraiment s'affranchir du poids de ce qui se fait? Alors, je parle l'image, mais c'est aussi une question ouverte à nos écrivaines. Effectivement, il y a eu Tolkien, il y a eu des illustrations comme celle de Donjons et Dragons. Enfin, il y a eu tout un tas de pierres comme ça qui ont été posées. Est-ce que c'est difficile de s'affranchir de ça pour trouver son propre style et sa propre voix? Allez, Justine, à toi.
Après, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi en écriture, en illustration, des modes, des courants, des gens qui font un petit pas en avant de par rapport à ce qui a été fait avant eux, etc. Et du coup, il y a des styles, il y a des façons de voir qui sont un peu laissées en arrière, et on peut aussi les redécouvrir. En ce moment, j'écris un bouquin sur Mordred, et rien que le bestiaire médiéval tel qu'il était décrit à l'époque, c'est super mignon, super intéressant, parfaitement ridicule aussi, sur pas mal de trucs. Mais il y a qu'à voir le bocasse, donc c'est une espèce de gros cerf en fait qui se défend en déféquant sur les chasseurs, c'est parfait, avec de superbes gravures, on voit le truc en gros plan. Mais on peut aussi se servir d'un fond commun qu'on a un petit peu laissé derrière nous, je pense.
Sarah.
Il y a de ça, oui, mais il y a aussi le fait que quand on a beaucoup lu, beaucoup vu, beaucoup regardé, au bout d'un moment, on a bien ingéré ça, on a bien digéré ça, et on peut aussi en oublier une partie, garder certaines idées directrices qui nous sont chères, et s'inventer son propre langage, s'inventer sa propre manière de raconter les choses, à partir aussi de tout ce qu'on a découvert avant, de tout ce qu'on a qui nous a fait rêver, réfléchir, et des choses comme ça.
Il faut dire que Sarah, elle mélange un peu de l'univers féerique avec l'espace. Hein. D'ailleurs, comment s'est née cette idée, cette confluence?
J'avais déjà écrit deux autres nouvelles dans ce monde-là, et une novella, et je cherchais à travailler sur les faits traditionnels anglo-saxonnes, et puis j'ai cherché des bouquins, et tous les bouquins que je trouvais étaient des interprétations. Et ça m'intéressait pas, j'avais pas envie de connaître la vie d'un tel ou un tel, ou son imaginaire par rapport aux faits. Donc j'ai commencé à les créer moi-même. Et j'ai créé comme ça quelque chose comme 90 espèces de faits, avec cette envie de faire des faits contemporaines, voire science-fictives, technologiques, mécaniques, qui fabriquent des objets, qui s'insèrent dans notre contemporain et dans notre avenir, et qui deviennent à ce moment-là des faits de science-fiction. Mélanger un imaginaire antique qui est né des Indo-Européens, qui est né dans le Nord, chez les pays celtiques, etc., avec notre avenir. C'est aussi mon Deus ex machina, c'est aussi mon j'ai envie de réparer ça, j'ai envie que ça aille mieux dans le monde, ben, j'ai une fée pour ça.
Et quel poids de l'image dans l'écriture?
Alors, ça va faire un peu extraterrestre, je ne sais pas si tu as vécu la même chose. Au début, quand j'ai commencé à écrire, effectivement, j'ai visualisé, enfin je dis « je » parce que c'est assez personnel, il me semble, j'ai commencé à visualiser la pièce et je la décrivais un petit peu, j'ai commencé à visualiser les personnages et je les décrivais un petit peu. Et au fur et à mesure, j'ai l'impression que le mot devient une sorte de raccourci entre la pensée et ce qu'on écrit, et je visualise plus du tout. Je vois directement en mots. C'est assez curieux et assez inintéressant en fait. Donc je vais arrêter là.
Je trouve ça intéressant ce qu'elle vient de dire, parce que moi je suis de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire que j'ai illustré énormément de couvertures de romans, notamment des romans de fantasy. Et en général, je ne veux surtout pas avoir à parler avec l'auteur. Parce que les auteurs réfléchissent en mots. Et en général, si jamais je dois faire des allers-retours avec l'auteur, ça se passe toujours de façon absolument catastrophique. Parce que moi, je sais comment monter une image, je sais que j'ai des choses à mettre en avant. Et l'auteur a une vision beaucoup plus globale de son univers. Il voit tout en même temps. Il voit tout en même temps, lui. Et moi, je suis obligé de sélectionner dans les images qu'il va me proposer pour créer un visuel. Et en général, ça se passe pas bien. Parce que, oh, il faut que tu me mettes ça, ça. Il y a une armée, là. Il faut qu'il y ait un dragon dans le ciel. Et en même temps, le guerrier, eh ben, il faut qu'on voit qu'il pleure de douleur en même temps. Et donc, vous imaginez, donc, il y a un plan serré en même temps qu'un plan large. Et vous voyez, il y a tout ça dans l'image. Et en général, bon, c'est juste pas possible. Et c'est très compliqué dans ces moments-là de dire à l'auteur, je suis embêté parce que je peux pas faire ce que tu me demandes. Mais c'est, voilà.
Moi, j'ai grandi dans un univers pictural. J'ai une mère plasticienne. J'ai passé mon enfance, mon adolescence dans des expos, dans des livres, à découvrir l'histoire de l'art, etc. Mais je suis incapable de visualiser. Je ne pense qu'en mots. Je ne vois pas. Même quand je décris, même quand je fais des fiches, etc., et que je donne une apparence à mes personnages, à mon monde, etc., ce sont les mots qui leur donne une réalité, ce ne sont pas les images.
C'est pas marché de la même partie du cerveau, je pense, voilà. Simplement. C'est pas la...
Mais c'est curieux parce que même certains scénaristes, dans la BD, ce qui me concerne, certains scénaristes qui sont eux-mêmes dessinateurs, quand ils prennent le chapeau de scénariste, ils réfléchissent beaucoup moins de façon visuelle. C'est étonnant. On se retrouve avec des problèmes, confrontés à des problèmes. Mais tel scénariste, il est dessinateur aussi, il devrait pouvoir comprendre que cette scène, elle n'est pas dessinable. Et pourtant, ce n'est pas le cas.
Est-ce que ça veut dire que les mots et le dessin sont irréconciliables en fantasy?
Non, mais c'est ce que dit Jean-Sébastien. On fait marcher des lobes différents du cerveau.
Ils sont complémentaires. C'est simplement complémentaire. C'est la beauté, je pense, de l'alliance des deux qui fait qu'on a une richesse encore supérieure. Voilà, c'est tout simplement.
Non, je ne crois pas que ce soit incompatible. D'ailleurs, pour l'instant, je suis en train de travailler sur la réédition en numérique de ma toute première nouvelle. Et vu que la personne qui s'était proposée pour faire l'illustration n'arrive pas à le faire, ben, je vais le faire moi-même. Parce que une fille à poil avec une grande épée, ça, je sais faire.
Ça nous la coupe, hein. Quand même. Hein. Bien. On regarde Sarah différemment. Eliane, la même question sur ce jeu entre l'illustration et les mots. Et ce dialogue.
Je suis toujours un cas à part. Oui, justement. C'est bizarre parce que, en fait.
Rapproche un peu ton micro.
Oui, l'avantage, c'est que les dragons et billets, on les a écrits avec Karine, puisque je ne suis pas le seul auteur des dragons billets, même si le héros porte le même nom que moi. Salaud. En fait, on est deux auteurs et on voyage dans ses pas. Donc, ce qu'il voit, on le voit et on l'écrit. Et dans Les Maudits, c'est encore pire, puisque c'est moi qui raconte à Karine ce que je vois, et c'est elle qui écrit. Enfin, c'est moi qui pose le décor de la scène, un petit peu comme dans le film Inception, en fait. Il y a l'architecte et il y a le scénariste. Moi, je suis l'architecte. Après, ce qui se passe à l'intérieur de la scène, ça m'ennuie un peu, je préfère passer au dessin. Et Karine, ça l'éclate. Par contre, poser le décor, ça l'ennuie, et donc ça tombe bien. Donc finalement, et même là, le travail qu'on vient de terminer avec Pierre, qui n'est pas vraiment de la fantasy, mais qui est plutôt du fantastique, sur les fantômes. Ben on a avancé tous les trois sur le même chemin et Pierre écrivait, Pierre nous en parlait au téléphone parce qu'on n'avait pas reçu ses textes, nous on illustrait et apparemment ça a collé, même si c'est pas la représentation exacte de ce que lui décrivait avec ses fesses rebondies et ses personnages féminins, la représentation qu'on en faisait c'était aussi celle qu'il avait en tête quand il écrivait, donc peut-être avec des mots et non pas des images en fait.
Pierre Dubois a des fesses rebondies.
Ouais, Pierre Dubois a des fesses rebondies, je pense que s'il m'écoute il va me tuer là.
Ça tombe bien, c'est enregistré. Simplement, est-ce qu'on peut vraiment être original en fantasy ou est-ce qu'il y a des choses où on est un peu obligé de les mettre, hein? On a parlé de dragons, on peut parler d'épées, de chevaliers ou de choses comme ça. Est-ce que du coup, il y a des choses qu'on s'oblige un petit peu à mettre dans ses illustrations ou dans ses romans ou nouvelles?
Je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Sarah, tout à l'heure. C'est Quand on est créatif, il y a aussi un moment où, à force de se nourrir, à force de se documenter, à force d'intégrer les choses, on donne aussi sa voix particulière à ce qu'on rend. Et l'originalité, je pense qu'elle est là, en fait. Plus qu'effectivement dans le 50e dragon qu'on décrit d'une façon un petit peu différente. Voilà, c'est surtout le ton de la personne, il me semble.
Et il me semble d'ailleurs que ces dernières années, dans les sorties, on découvre de plus en plus de textes originaux qui s'éloignent des classiques, qui inventent d'autres choses, qui s'éloignent des récits linéaires, qui s'éloignent des poncifs du genre. Et au contraire créer de nouvelles théories magiques, de nouvelles sociétés, de nouveaux personnages qui se détachent d'un certain classicisme qui a longtemps été le plus important.
Et chez l'illustrateur, vous avez cette possibilité d'être, quand on te demande par exemple une couverture, tu peux être follement original ou au contraire c'est plutôt classique?
Encore une fois, ça dépend de la personne avec qui je travaille en fait. C'est quelque chose d'éminemment humain, je pense. Il va y avoir des maisons d'édition qui vont me laisser carte blanche. Et dans ce cas-là, il peut se passer n'importe quoi. Et puis il y a d'autres personnes avec qui on bosse qui ont un cahier des charges très très précis. Là, j'ai en tête par exemple des illustrations que j'ai pu faire pour World of Warcraft par exemple, où le cahier des charges est extrêmement précis. On a des personnages qui sont tirés au cordeau, on peut pas en dépasser, même si l'archétype est ignoble. Dessiner une vache en armure par exemple, c'est pas ce que je préfère, mais on est obligé, une vache violette en armure pardon, donc 1000 cas en fait. Mais c'est dans le cahier des charges, il faut le faire, voilà, c'est comme ça. Donc, et pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, je pense aussi qu'il y a des effets de mode aussi en fantasy et dans d'autres styles. Chez les vampires, ça va être pareil aussi. Les histoires de vampires se réinventent perpétuellement. On le voit bien avec Twilight, ce genre de choses-là. C'est tout le temps. Et en fantasy aussi. Là, dernièrement, j'ai fait une illustration pour un bouquin qui s'appelait Rien que l'acier. Et on m'a dit, le pitch qu'on m'a donné, c'est Conan. J'ai fait, ouais, Conan. Oui, mais Conan, gay.
Et SM.
Et tout de suite, j'ai eu des images dans la tête. J'ai pensé à Judas Priest. J'ai vu des mecs terrifiants.
Cool.
Ouais, cool, quoi. Voilà, non, ça évolue. Ouais. Même le truc du barbare, on essaie de le faire évoluer quand même. Mais peut-être qu'on revient de toute manière à des choses qui existaient dans, je sais pas moi, dans la Rome antique. Voilà, je pense plutôt qu'il y a un renouvellement, qu'on revisite perpétuellement de façon cyclique les époques pour effectivement remélanger les choses dans un autre sens. Mais globalement, je ne suis pas persuadé qu'il y ait vraiment de l'invention. En tout cas, dans l'illustration, je le ressens comme ça.
Oui, bien, non. Alors, Juan,
revenir sur ce que tu avais dit au départ sur la relation entre l'auteur et l'illustrateur. Ça peut vraiment être un échange, ça peut vraiment être un partage et quelque chose d'extrêmement fort. Parce qu'il n'y a pas seulement les commandes avec des trucs très stricts, il n'y a pas seulement l'illustration d'auteurs anglo-saxons avec lesquels on n'a pas de contact. Il y a aussi des relations très fortes qui peuvent se créer entre un auteur et un ou plusieurs illustrateurs qui, à ce moment-là, sont quasiment au service l'un de l'autre.
Moi, il n'y a rien qui me nourrit plus que quelqu'un qui a un auteur vraiment littéraire, qui a vraiment une force au niveau de ce qu'il va, peu importe ce qu'il va me raconter, à partir du moment où il a cette capacité à rendre quelque chose, j'ai pas le mot, vraiment littéraire, quoi, vraiment la mélodie des mots, tout ce genre de choses là c'est compliqué à trouver en fantasy, mais quand on en trouve c'est fantastique, enfin, moi ça me transporte effectivement, ça m'amène vers d'autres horizons, ça me pousse à emmener mon propre travail beaucoup plus loin, c'est sûr.
Juan, vous avez, il y a des, entre Black Sad, Sorcellerie ou Voyageurs, ce sont quand même des univers différents. Est-ce que la fantasy c'est plus difficile à dessiner qu'un univers contemporain où on aurait effectivement des photos, des images, une documentation en tout cas plus forte?
Non, mais justement, on prend des libertés dans tout ce qui est fantastique. Voilà, on se base, on prend une photo sur Internet d'une antenne relais et voilà, on le transforme en base spatiale. Donc voilà, ça c'est la référence où on est totalement libre. tout ce qui est fantastique et féerique, effectivement, c'est, voilà, c'est, on peut avoir des nanas avec des cornes qui leur sortent des yeux, on fait ce qu'on veut, quoi. C'est effectivement, mais chaque, mais disons qu'il y a, mais il y a toujours, on cherche toujours en tant que dessinateur ses références, sa documentation, les images qui nous parlent, les éléments qui vont constituer, qu'on va combiner nous après de nous-mêmes pour s'adapter à notre créneau, au créneau narratif de notre histoire. Si c'est un polar, ben voilà, inévitablement il va falloir avoir des références de l'époque, des bagnoles, etc. Si c'est du, après quand c'est de la fantaisie, j'ai fait beaucoup d'illustrations de, mais pour moi et quand j'étais jeune, donc des forêts avec, comme je disais, des faunes, des lutins et tout ça. Et moi, et ma principale, mon principal souci de documentation, c'était la forêt en elle-même, les arbres, les plantes, les champignons, comment ça pousse, à quel point ça peut être fantastique, dépaysant et étrange, alors que c'est la nature elle-même.
Et justement, parce qu'il n'y a pas besoin de plus de documentation, presque plus de recherche pour trouver les bonnes idées, la créature qui va presque paraître crédible ou des choses comme ça.
Mais après, c'est notre recherche personnelle, c'est notre recherche graphique, mais ça, on connaît, c'est des feuilles et des feuilles, des blocs et des blocs remplis de petits dessins superposés les uns les autres, où on cherche, quoi. C'est vraiment le truc, on s'achemine sur une voie et on sent si on est sur la bonne voie, et à partir de là il y a aussi une jubilation du dessinateur qui se trouve sur la, ah ça y est, c'est bon, je le tiens.
Justine, quand tu as attaqué Chien du Homme, Chien du Homme est un roman de fantasy où il n'y a pas du tout de lutins, il n'y a pas du tout de gobelins. Simplement, alors justement, comment c'est né tout ça, est-ce que c'était un souhait dès le départ ou ça s'est imposé au fur et à mesure du récit? Le choix de ta fantasy, en fait.
Pour Chien du Homme, ce que je voulais faire, c'était de la fantaisie historique, c'est-à-dire tout ce qui était magique dans son monde à elle, c'était ce que les gens de l'époque voyaient de la magie, c'est-à-dire effectivement de la forêt qui est inquiétante parce qu'on n'y vit pas et on ne sait pas exactement ce qui s'y cache. C'est une grotte, c'est un buisson qui bouge à la tombée du crépuscule, tombée de la nuit, des choses comme ça. C'est les peurs qu'on a simplement de soi-même, de l'autre, de la guerre, de tout ça. C'était du destin aussi. Je voulais parler de magie historique, toute proportion gardée. Donc c'était choisi depuis le départ, effectivement. C'est pas de la fantasy.
Et du coup, est-ce que ça impose des contraintes supplémentaires ou moindres?
De la recherche, et puis essayer peut-être de difficilement de s'approcher le plus possible, ou en tout cas avec le plus de respect possible, de ce que les gens de l'époque pouvaient penser. Et aussi devoir rester réaliste dans le sens où il ne peut pas y avoir de super fées qui arrivent pour régler tous les soucis et de super gentils magiciens qui permet une fin joyeuse et agréable avec plein de petits animaux roses qui courent partout.
Il nous reste un petit quart d'heure. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos 5 invités? Profitez-en, il doit y avoir un micro quelque part, pas très loin. Non, si. Sinon, je pâte le mien. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? Hop là. D'accord. Vous avez compris, donc si vous voulez vous faire dédicacer un livre de Sarah Dock, elle peut vous dessiner une femme nue.
Avec une épée.
Ça, le sujet qui n'a pas été traité, c'était les origines de la fantasy. Alors je rentre, je voulais entendre parler de William Morris, je voulais entendre parler de Hannes Bock.
D'accord. Est-ce que les origines de la fantasy, ça vous parle en tant qu'auteur et illustrateur? Vous avez le droit de dire non, hein?
Non.
Non. Non. Vous avez le droit de développer, ça va m'aider.
Non, parce que... Enfin, bon. Vas-y, non, vas-y, vas-y.
Oui, ça m'intéresse parce que ça a fait partie de mes recherches, ça a fait partie de mon travail à une époque, et parce que c'est toujours intéressant de retourner aux sources. Mais les origines de la fantasy, elles sont où? Elles sont dans les récits antiques, elles sont dans le roman de Gilgamesh, dans le roman arthurien qui est considéré comme le premier roman moderne. Elles sont où? Elles sont dans l'heroic fantasy d'Edgar Rice Burroughs, dans Howard. Il y a tellement d'origines possibles, il y a tellement de textes différents de chez Leiber, que oui, c'est intéressant, mais apprendre chacun dans son truc pour nourrir un imaginaire qui après va le digérer et en faire autre chose.
Ça nous apprend énormément de choses, effectivement, quand on commence à se plonger dans les références de la fantasy. Vous parlez de William Morris, bon, mais effectivement, lui-même, William Morris était influencé par d'autres types de peintures, et sans doute par des auteurs aussi. On revient perpétuellement en arrière aux origines, et je te rejoins tout à fait, effectivement. C'est comme la fantasy, c'est comme une plongée dans les origines quasiment de l'humanité, quasiment. Si on va par là, l'art paléolithique, c'est de la fantaisie aussi, si on va par là. Le premier chaman peint au fin fond d'une grotte qui discute avec son homologue de l'autre côté de l'autre côté du miroir, enfin pas du miroir, mais dans l'au-delà, c'est déjà une forme de fantaisie. C'est passionnant.
Tout à fait. Et puis c'est... En fait, la fantaisie, quelque part, que ce soit au niveau pictural ou au niveau écriture, c'est à la fois des contraintes énormes de cohérence, de respect, etc., et une liberté phénoménale d'invention et de régurgitation d'un mélange, d'un fatras, d'un magma d'inspiration qui nous viennent depuis la fin des temps.
Et je suis exactement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, j'emmerde très souvent mes amis en leur disant exactement la même chose quand j'ai trop bu. Mais pour moi, ça me fait beaucoup penser les débuts de la fantasy à la forêt des Mythago. En fait, plus on avance dans la forêt, plus les mythes deviennent brutaux, importants et primordiaux, en fait, et constructeurs.
Et pourquoi vous avez choisi justement la fantasy comme illustration, comme dessin ou comme roman?
Oh, c'est la fantasy qui nous choisit. Je sais pas,
c'est con, mais je suis d'accord avec toi aussi.
Mais
encore,
moi aussi.
Là. C'est-à-dire que quand je suis tombé sur ça, à 11 ans, voilà, les livres dont vous êtes le héros, je suis tombé dessus, j'ai été happé tout de suite. C'est primaire, on ne se pose pas la question, il y a un truc comme ça qui se passe, et ensuite il faut y aller. Voilà. Après, on peut se tordre le cerveau dans tous les sens et chercher à comprendre qu'est-ce qu'on a. Voilà, ça peut devenir psychanalytique après si on veut, mais. Mais il y a un truc comme ça, que physique au départ.
Eh bien.
Je me rends compte qu'en fait, moi, c'est quand je disais non tout à l'heure, la fantasy, c'est qu'en fait, c'est plutôt le fantastique moi, qui m'a emmené à tout ça. Et c'est vrai que le virage par les dragons en fait que du coup, on m'accole à la fantasy, mais je me rends compte quand j'écoute tout le monde, quand on parle super bien, que je me sens tout petit parce que je suis, pour moi, la référence. C'est que j'essaye de me dire, on parle de fées, on parle de lutins, du coup, je pense à Gaiman avec Neverwhere. C'est plutôt ça en fait qui m'amuse quoi. Je pense à Calvo, depuis tout à l'heure je cherche le nom de son album et j'adore, qui se passe à Marseille avec il est fleuriste, je sais plus le titre de l'album, désolé, mais de son roman, mais ça pour moi c'est de la féerie qui m'éclate complètement en fait. Et du coup c'est vrai que je me sens un petit peu décalé par vous, cette fantaisie là je la connais pas malheureusement, donc j'arrive pas à la reconnaître.
Moi, la fantasy, ça dépend du texte. Il y a un ou deux textes que j'ai écrits qui sont purement de la fantasy. Mais pour moi, mes histoires de fées, par exemple, c'est pas de la fantasy, c'est de la SF. Ouais. Et j'utilise des images, j'utilise des mythes, j'utilise des symboles de fantasy, mais pour écrire la SF.
Juan, un petit mot sur la fantasy.
Moi, il m'arrive pareil, quoi, de trouver beaucoup d'intérêt à remonter, parce que voilà, nos références graphiques, qui aujourd'hui, c'est imaginaire qui nous surprennent, qu'on veut momentanément même imiter. Si aujourd'hui c'est Paul Bonner, mais Paul Bonner se réfère à Alain Lee se réfère à Rackham, et de Rackham, on arrive, et voilà, et on va, voilà, jusqu'au pas au paléolithique, je dirais, mais parce que là encore, c'est plus la représentation de la nature. C'est quand on commence à vouloir représenter des créatures fantastiques qu'on imagine, voire les dieux, toutes les philosophies, toutes les mythologies qui se développent. C'est là qu'il y a le développement, voilà, des bêtes étranges, dans toutes les civilisations, que ce soit précolombienne, égyptienne, asiatique, il y a un moment où il y a une éruption des sales bêtes, des gros dragons, des lions mélangés, des griffes, des griffons et des hippogriffons et tout le reste, et là ça, des sphinx, et c'est là que ça, pour moi, il y a, je pense que là j'ai pas étudié la question, mais c'est vachement intéressant de voir où dans chaque civilisation, à quel point il y a l'éruption de tous ces êtres monstrueux qui débute cette explosion de l'imaginaire qui va de pareil avec la religion, les croyances, l'inquiétude pour l'inconnu.
Le dragon, on en trouve dans toutes les parties du monde très très tôt, en fait. Ça, après, je suis pas assez calé pour savoir effectivement les plus vieux dragons.
Je suis désolé. Mais c'est Lovecraft. En fait, j'ai l'impression d'entendre Lovecraft quand je vais sortir les grosses bestioles, donc. En fait, j'aurais pas dû faire un livre sur les dragons, finalement.
Est-ce qu'il y a une autre question sur un dragon gay, violet, par exemple, ou un chaman avec des cornes ?
Bonjour. Non, j'avais pas de question sur les chamans. Par contre, je voulais vous demander si, pour vous, les mythologies celtiques et nordiques n'avaient pas une forte influence sur la fantaisie à l'européenne ?
Si.
Bah, c'est notre mythologie, donc c'est normal qu'elle ait une influence sur nous, elle est reliée à nous directement, c'est notre culture. La culture indo-européenne, on en parlait tout à l'heure, c'est la nôtre. Donc moi, je vais pas faire des illustrations sur le Mahabharata, ça va pas. Moi, j'ai pas envie, c'est pas ma culture.
Et de toute façon, ces mythologies-là ont été récupérées par le christianisme dès le début, etc., et donc sont restés dans notre imaginaire. On donnait naissance à une féerie, on donnait naissance à des superstitions, à des croyances, à des lieux sacrés qui le sont, qui l'étaient déjà avant, etc. Donc c'est notre culture. C'est donc une évidence. Mais c'est pas la seule non plus, parce que d'autres vont la mélanger avec des cultures plus japonaises, plus africaines, plus ça se mélange.
Oui, d'ailleurs, j'ai dit une bêtise avec le Mahabharata, parce que clairement c'est indo-européen aussi, donc de toute manière on a les mêmes stéréotypes, on retrouve les mêmes héros, les héros celtes, c'est les mêmes.
Y a-t-il une autre question dans la salle ? Hop. Oui.
Bonjour, je voulais savoir en fait si vous aviez des choses à... c'est vrai qu'il y a une critique qu'on entend souvent par rapport à la fantaisie, que je partage pas forcément, mais on entend souvent que la fantaisie elle aurait des analyses, un rapport aux politiques qui serait moins intéressant et moins complexe que la science-fiction de manière générale. Est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous répondez à ce type de critique?
Bah, ça dépend de quelle fantaisie on parle, en fait. C'est vrai que la fantaisie commerciale, la fantaisie classique a un côté assez passéiste, assez féodal, assez de droite, en fait. Et réfléchit un petit peu moins à des questions politiques. On voit moins d'histoires de révolution ou de grands changements dans les romans de fantasy que dans des romans de SF, mais... Ce n'est pas propre au genre, parce qu'il y a aussi des auteurs qui dépassent ça, qui veulent faire autre chose. Entre autres, Richard Morgan avec Rien que l'acier et sa suite qui vient de sortir remet en question énormément de poncifs de la fantasy traditionnelle et aussi bien au niveau politique qu'ailleurs. Un Brandon Sanderson fait pareil. Ses romans... c'est chez Orbit, je crois, sont des romans de révolution pour changer le monde en utilisant une forme de magie, mais pour changer une société écrasée par un totalitarisme royaliste en quelque chose de différent. Donc ça dépend des auteurs, ça dépend des époques et ça dépend du style de fantasy qui est lu à ce moment-là.
Eliane, tes dragons, ils sont de droite ou de gauche ?
Ils sont partis. C'était plus sûr.
Mais c'est vrai que si on veut dénoncer un régime totalitaire ou quoi que ce soit, c'est le réflexe de base, c'est de faire un roman d'anticipation.
Ouais.
De dire, voilà, on remplace ça un tout petit peu plus tard, comme ça on est tranquille et puis on peut dénoncer des choses tranquillement. De toute façon, c'est dans le futur, ça n'existe pas vraiment. C'est le réflexe. Maintenant, ça doit être possible de le faire aussi avec un roman de fantasy. Ouais, c'est clair.
Y a-t-il une autre question dans la salle ? Bon, pas d'autres questions, une fois, deux fois, trois fois. Eh bien, on va remercier nos auteurs. La conférence qui suit, c'est la SF est-elle un outil pour les sciences humaines ? Donc là aussi, ce sera très intéressant. Merci à vous et puis merci à tous.
Merci.
Merci.